Mensagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous. Passage à niveau, votre compagnie jusqu'à 14h ce dimanche 26 octobre. Et voilà le menu. On va parler des prochaines élections municipales qui ont été fixées au 15 et 22 mars. Et on est déjà plein dans la période dite préélectorale. On va retourner à Acher avec lui, Armand Viré, qui est conseiller municipal d'opposition, justement dans cette ville. On parlerait après de plusieurs choses, bien entendu, du livre Gauvaille et Merle, une biographie du journaliste Victor Matouche. Après, on parlera de la conférence sortie de dictature au Portugal et au Brésil, conférence qui aura lieu le 3 novembre à la salle de fête de la mairie de Brunois. Et du théâtre, théâtre musical, Soldat d'ici et là-bas, va être représenté le samedi 8 novembre au théâtre de Bry-sur-Marne. Et on parlera également du partenariat avec Lady Gilles créative musicale de l'UNESCO. Un concert va avoir lieu le mardi prochain, 28 à partir de 20h, avec un instrumentiste, José Guilherme Neves, tuba. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est tuba, eh bien, vous allez le savoir. Mais déjà, mes amis, on va partir à Acher. Monsieur Louis Armand Viré, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct sur Radio Alpha. Alors, premier tour des élections municipales le 15, deuxième tour, ça sera le 22. Alors, il faut dire que vous êtes déjà élu d'opposition à Acher, justement, et plus encore, vous êtes également conseiller communautaire au sein du Grand Paris Seine et Loise. Alors, cette opération de votre candidature a été lancée le 25 septembre avec un appel à l'union des forces de gauche pour porter un projet commun au service des Acherois et Acheroises. Vous avez été entendu ou pas?
Alors, on a été entendu. Le dialogue se fait depuis avant cet appel, puisque l'association a été créée en 2022 et on avait convié toutes les forces de gauche, les partis politiques, les syndicats, etc., à discuter de la mise en place de cette association. Certains ont rejoint le mouvement, d'autres étaient un peu plus sur la réserve. Le dialogue ne s'est pas perdu depuis, on continue à le faire. Après, c'est comme au niveau national, c'est toujours un peu compliqué de faire converger tout le monde dans le même sens, même quand on a les mêmes valeurs. Mais on a bon espoir que en mars prochain, on ait une liste unique à gauche.
Voilà. Bon, c'est bien de le dire parce que c'est pas évident du tout ce qui se passe. Hein. Bon, enfin bref, probablement, bon, on va changer un corps de gouvernement. Alors, une petite parenthèse. Façon de résumer, s'il vous plaît. Comment est-ce que vous voyez la situation actuelle? Parce que bon, des solutions, merci Monsieur Macron, etc. Ça fait déjà troisième gouvernement en quelques mois ou bon, à peu près un an et poussière. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation actuelle? Parce que malgré tout, vous avez des responsabilités politiques comme conseiller municipal.
Alors, la situation actuelle au niveau national ou au niveau local?
Au niveau local. Oui, parce que finalement, le national, bon, ça a une implication directe dans la vie locale.
Tout à fait. Alors, ce qu'on ressent avec les divers changements de gouvernement actuellement, c'est que ça impacte de plus en plus les villes et les communautés urbaines, parce qu'il y a un désengagement de l'État qui veulent faire des économies un peu partout et tape en priorité sur les collectivités locales. Donc ça, c'est quelque chose que les prochaines équipes municipales et actuellement aussi doivent prendre en compte dans l'élaboration de leur budget, dans la manière de trouver des solutions qui vont nous permettre de faire plus avec moins, parce que la tendance, elle est lancée. Malheureusement, j'ai pas l'impression que qu'on puisse en changer rapidement, même si moi j'appelle de mes voeux à ce que notre président nomme un gouvernement issu du nouveau Front Populaire. Au moins essayer, peut-être qu'il y aura une censure derrière parce que les autres groupes n'en voudront pas, mais ça respecterait le choix des habitants et des citoyens français qu'ils ont fait en juin dernier.
Alors, je pense que dans votre programme, tout au moins, c'est ça que vous avez affirmé dans une interview, c'est un programme où l'écologie aura toute sa place. Ça veut dire que, bon, dans la vie, concrètement, bon, on dépend un petit peu de l'écologie, on voit très bien tout ce qui se passe, le changement, le chaud, froid, les tempêtes, les inondations, j'en passe les meilleurs. Donc, c'est un petit peu la base de votre programme.
Tout à fait. L'écologie, l'environnement, c'est pas juste une partie du programme. C'est-à-dire que dans toutes nos réflexions, dans toutes les propositions qu'on va faire, il faut qu'on pense adaptation et atténuation au changement climatique. C'est-à-dire que on va vers un monde qui va dépasser plus 1,5 degré. Ça a été confirmé par les scientifiques du GIEC. Ça peut monter jusqu'à 2, et je l'espère pas, parce que ça va être dramatique pour non seulement les habitants de la Terre, mais aussi les habitants de la planète entière, parce que c'est global. Donc dans toutes les décisions, il faudra prendre cette question du réchauffement climatique en compte. Après, l'environnement, enfin l'écologie, c'est intimement lié aux questions de justice sociale. Mmh. Donc ça apparaît, je pense que vous connaissez l'adage, de l'écologie sans justice sociale, ça s'appelle du jardinage. Donc pareil, il faut penser écologie, mais pour tous, pas juste pour quelques personnes qui ont les moyens de se payer à manger du bio, par exemple, si on va dans ce sens-là. Il faut que les personnes qui n'ont pas un revenu élevé puissent bénéficier aussi de ces mesures-là, puissent avoir une alimentation saine et faire aussi de la sensibilisation à tous les impacts que ça a. Il y a une question aussi de santé environnementale qu'on prendra évidemment en compte.
Alors, je pense que vous avez une base, bon, des principes fondateurs de votre projet. Alors, la liste s'appelle Agir ensemble pour HR, et comme vous avez dit au début, ça dit d'une association avec le même nom qui a été créée il y a 2 ans auparavant. Alors, il y a des secteurs sinistrés dont localement et nationalement, et pourtant il s'agit des biens publics, santé, éducation, je pourrais rajouter habitation, etc., mais vous dites santé, éducation, enfance, ce sont des priorités qu'il faut traiter et accompagner tout ça, les habitants là-dessus.
Oui, alors la santé, comme beaucoup de villes en France, malheureusement, nous on a l'impression on est en Île-de-France, mais on a l'impression d'être une ville de province avec un désert médical, c'est-à-dire que le nombre de médecins par habitant n'est pas assez élevé. On a fait une conférence en mai dernier avec Laurent Elgozy, qui est un ancien chirurgien et ancien élu de Nanterre, qui connaît bien le sujet, qui nous a expliqué tout ce que ça impliquait, tout ce que la ville pouvait faire pour la santé des habitants. Et c'est pas juste avoir des médecins généralistes sur le territoire, c'est important, mais il n'y a pas que ça. On peut aussi prévenir beaucoup de risques de santé environnementale, santé mentale, etc. en amont, et ça doit prendre une place dans toutes les actions de la mairie, dans toutes les comme pour l'environnement au final, dans tout ce qu'on va faire. La municipalité a plus à faire que de juste rendre la ville attractive pour faire venir des médecins généralistes ou spécialistes.
Et d'ailleurs,
pour l'enfance, même chose, on a une ville qui est relativement jeune par rapport aux villes voisines. La moyenne d'âge, si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est 37 ans. Il y a beaucoup de familles avec des enfants, des jeunes enfants, et les services qu'on propose à ces familles ne correspondent pas aux attentes des habitants et aux besoins des habitants. Il va falloir développer aussi cet aspect, proposer potentiellement plus de places dans les crèches municipales. On réfléchit aussi, alors c'est pas, on le met pas tout de suite dans le programme parce qu'il faut encore étudier certaines choses, mais la question d'une cuisine centrale, c'est-à-dire que c'est la ville qui gère tout de A à Z, qui va pouvoir proposer des produits de meilleure qualité. Si en plus vous arrivez à faire ça en collaboration avec les villes qui font partie de la GPSO, je pense à
pardon, mais c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire ce sigle-là, s'il vous plaît?
La cuisine centrale ou
non,
GPSO?
Non, oui.
GPSO, vous l'avez dit, c'est la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, dont voilà, Acher fait partie et qui se tire jusqu'à Mantes-la-Jolie et plus loin. C'est la plus grosse communauté urbaine de France, donc c'est assez difficile de dialoguer et de faire des choses à l'intérieur avec tous les élus, parce qu'il y a des tendances différentes. Donc si on peut avoir plus de villes qui passent à gauche aussi et pas que HR, ça serait une bonne chose pour nous.
Alors, ça concerne la santé, je rajoute une de vos propositions, c'est construire une maison de santé municipale. Alors, par rapport à l'éducation en France, je cite, nous voulons une ATSEM par classe. Qu'est-ce que c'est une ATSEM?
Alors, une ATSEM, je me souviens plus exactement de ce que veut dire le sigle, mais en gros, pour expliquer basiquement, c'est une personne qui est dans les maternelles et qui assiste la professeure des écoles qui donne cours à vos enfants. Elle est là pour emmener les enfants aux toilettes, etc., s'occuper d'eux. Quand ils sont petits comme ça, c'est un véritable bénéfice pour l'institutrice d'avoir ce relais-là. Actuellement, un HR, c'est ils respectent strictement la loi et de mémoire c'est une demi par classe ou un truc comme ça. Nous, ce qu'on voudrait, c'est, on s'en rend compte, en fait il y a un intérêt d'avoir ça pour les enfants, d'avoir une ATSEM par classe.
Alors par rapport aux enfants, je pense aux enfants en situation de handicap, là il y a un gros problème d'accompagner ces enfants là qui soient scolarisés normalement.
Tout à fait. Le handicap, c'est un sujet qui est souvent délaissé par les politiques, malheureusement. On l'a vu l'année dernière, il y a un film qui a fait un carton qui s'appelle Un petit truc en plus. Donc c'est sur c'est pas du handicap physique, c'est des personnes en situation de handicap mental. Mm-hmm. Ça a fait un carton, ça a plu à tout le monde. On en a parlé. Il y a eu aussi les JO avec les Jeux Olympiques Paralympiques, pardon. Pareil, il y a eu un engouement. Et puis depuis, plus rien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devra aussi mettre au cœur de nos politiques, l'inclusivité. Et si on parle de handicap moteur, l'inclusivité de nos rues et de nos espaces publics, ça ne sert pas que à ces personnes-là. Ça sert aussi aux personnes qui sont plus âgées, qui peuvent se déplacer un peu plus difficilement. Mmh. Ça sert aussi aux familles avec des poussettes, etc., pour l'avoir expérimenté. Ça a un bénéfice pour tous. Et malheureusement, les personnes en situation de handicap sont trop souvent oubliées. Ça, c'est quelque chose, l'inclusivité, comme l'environnement qu'on va penser à chaque décision et qu'on va impliquer dans chaque décision qu'on prendra.
Alors, parlons de culture et jeunesse. Bon, le pass culture, apparemment, il est disparu, complètement disparu. Quel bilan vous faites de ces questions-là? Comment est-ce que la mairie actuelle, la majorité actuelle, mène le bateau, ça concerne la culture, et d'associer la jeunesse et pas seulement. Donc, vous avez des propositions concrètes à faire, bon, entre autres, la création d'un poste directeur des affaires culturelles, mais enfin, ça suffit pas, ça.
Alors, je vois que vous êtes bien renseigné, c'est super. Non, ça suffit pas. En gros, ce poste-là, ça va être un facilitateur de dialogue entre toutes les structures culturelles, mmh, avec la ville, avec les associations aussi. On a un tissu associatif qui est assez important à HR et qui rend un service à la population qui est essentiel. Mais il n'y a pas de vision globale. Il y a des choses qui sont faites peut-être un peu trop tard. Le dialogue n'est pas optimal en discutant avec certaines personnes d'associations. On nous a parlé carrément de dysfonctionnement entre le dialogue entre la mairie et eux. Ce qu'on veut, c'est améliorer tout ça pour que ce soit plus fluide, pour proposer des choses encore plus. Ils n'ont pas forcément besoin toujours de plus de budget de fonctionnement. Ils ont besoin d'un soutien logistique, d'un soutien aussi sur la communication, parce que c'est un vrai métier, et ça la mairie peut prendre le relais, parce que vous avez des personnes compétentes à l'intérieur qui savent le faire. Moi-même, je travaille pour une chaîne de télé musicale qui promeut la culture afro-urbaine. D'ailleurs, on a certaines chaînes en langue lusophone. Mmh. Je connais un peu le domaine, donc je sais comment ça marche, je sais comment améliorer les choses. Dernièrement, on voit que ça s'améliore un petit peu à HR, donc je ne sais pas si la municipalité actuelle a entendu nos appels sur ces questions ou si c'est juste la proximité des élections qui font qu'on essaie de faire un peu mieux. Il va falloir faire bouger les choses. Et sur la jeunesse, pareil, je l'ai dit tout à l'heure, on a une ville relativement jeune. Il va falloir donner les moyens à nos jeunes de profiter, de faire des choses, de s'informer, de s'amuser ensemble, aussi de créer du lien social. Ça, c'est quelque chose qui nous importe énormément. On se rend compte que s'il n'y a plus de lien social, bah les gens... ça crée des problèmes en plus qu'on pourrait s'éviter. Quand on connaît bien son voisin, on est peut-être un peu moins enclin à l'insulter ou à se battre avec lui, et ça permet de rapporter un peu plus de sécurité, entre guillemets, dans nos villes.
Alors, monsieur Armand Viret, une autre priorité, la modernisation démocratique, l'écologie et le numérique constituent une autre priorité. Alors, au sujet du numérique, justement. Alors, maintenant, tout est dématérialisé. Bon, c'est très bien. Bon, apparemment, on avance. Il suffit d'avoir un bug et on peut plus rien faire. Mais il n'y a pas une dépendance, il n'y a pas un danger, par exemple, bon, pour régler un problème avec la mairie, il faut passer par l'ordinateur, par le digital, mais l'humain dans tout ça. Comment est-ce que vous pouvez concilier les deux choses, l'humain et le numérique?
Alors, très bonne question. Le numérique, ce n'est qu'un outil, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire, il faut l'utiliser pour apporter plus de démocratie dans nos villes. Mmh. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont actives, elles travaillent, elles ont très peu de temps, donc c'est vrai que se déplacer en mairie pour faire certaines choses, ça peut leur sembler un peu une perte de temps, alors qu'elles pourraient le faire de manière numérique. Donc il faut continuer à proposer cette option-là. Par contre, on a aussi une population qui peut être plus âgée, qui n'a pas l'habitude. D'autres personnes qui, même plus jeunes, ont vraiment des problèmes d'accès au numérique ou d'utilisation, ne savent pas comment l'utiliser. Donc, il faut garder un service physique en mairie avec des personnes qui sont aptes à accompagner les personnes demandeuses pour faire leur démarche de manière numérique, etc. Encore une fois, ce n'est qu'un outil, ce n'est pas une fin en soi. Ça permet de réduire certains coûts, certes, mais on peut pas non plus rogner sur l'humain, où on aura toujours besoin de quelqu'un pour nous accompagner dans ces démarches-là, pour nous expliquer, etc. Il y a aussi une question de sensibilisation au risque du numérique qui est importante. On voit qu'il y a de plus en plus d'arnaques, aussi à la question de l'image, de son image sur Internet, notamment pour les familles avec leurs enfants, leur expliquer, les sensibiliser sur les risques que vous avez, par exemple, de publier plein de photos de vos enfants sur les réseaux sociaux, etc.
Donc, tout un programme, c'est le cas de le dire. Alors, pour le moment, on est en période préélectorale. Dernière question, bon, c'est vous êtes vraiment confiant que puisse avoir une unité à gauche des forces de gauche de HR et une question subsidiaire. Qu'est-ce que vous avez projeté pour faire les prochaines semaines, les prochains jours au niveau de votre candidature?
Alors, est-ce que je suis confiant? Oui. Je pense que par le dialogue, on peut résoudre beaucoup de situations. On a, comme je vous l'ai dit, hein, ça fait un moment qu'on discute avec beaucoup de personnes. On continuera à le faire jusqu'au bout, hein, en espérant que ça aboutisse. On est fermé à rien, à aucune. On n'oblige rien. Juste, on a un cadre, on a des valeurs, c'est celle de personnes de gauche, et ça, on n'en sortira pas, par contre.
Oui, mais c'est sur la base d'un programme.
Tout à fait. Alors, sur la base d'un programme, j'en reviens à ce que vous disiez juste après, quelles sont nos actions pour les prochaines semaines. Le programme, il n'est pas écrit juste par quelques personnes chez nous, et on l'impose, entre guillemets, aux autres. On fait depuis juillet des rencontres sous Barnum tous les samedis dans un quartier différent à HR. On a un questionnaire, les gens le remplissent. Pour l'instant, on a eu environ 300 réponses, et ça nous permet de voir quelles sont les priorités que les gens attendent par quartier, par tranche d'âge, etc. Et aussi de se rendre compte que des fois, il y a peut-être des solutions que nous, on avait envisagé et qui ne sont peut-être pas forcément des priorités ou que d'autres personnes l'avaient envisagé différemment. Donc, basé là-dessus, on va faire des ateliers participatifs avec ouverts aux habitants pour qu'ils viennent travailler sur certains sujets, donc l'environnement, le social, la jeunesse, la sécurité, etc. Et on a proposé aussi donc une conférence sur le thème de la santé au mois de mai. Là, on va en proposer deux au mois de novembre ou décembre et une au mois de janvier sur le thème de la sécurité et une autre sur le thème de l'environnement, avec des personnes qui viennent former et informer les participants pour qu'ensuite on réfléchisse pendant les ateliers participatifs à des solutions qui correspondent aux habitants d'Achère et au territoire d'Achère, parce que la spécificité des villes est différente entre chaque ville.
Oui,
donc on n'impose pas un programme.
D'accord. Je vous remercie, monsieur Louis Armand Viret, donc conseiller municipal d'opposition à HR et tête de la liste Agir ensemble pour HR. Bon, continuez à nous envoyer des informations et quand la campagne électorale commencera, on va essayer d'inviter un certain nombre de candidats à venir ici dans les studios. Merci, monsieur Viret.
Merci à vous pour votre temps et je vous souhaite une très très bonne journée.
Merci. Et agora vamos falar de um livro, Gouveia e Melo, uma biografia do jornalista Vítor Matos, publicado pelas Ideias de Ler este ano em 2025. Vítor Matias é um jornalista que cobre os assuntos de defesa há mais de 25 anos e foi neste contexto que conheceu Gouveia e Melo em 2003.
Bom dia. Sim, eu era jornalista no Diário Económico nessa altura e cobria as áreas da defesa. E Gouveia e Melo, nessa fase, calhou ser Relações Públicas da Marinha, e era na altura em que Portugal estava a comprar os submarinos, e ele era um submarinista dos mais experientes, e então nessa altura acabava por falar com ele, por razões profissionais, longe de imaginar que ele ia um dia tornar-se num candidato presidencial.
Eu vou-lhe pedir interesses gerais, não é? Quais foram as diversas fases da vida de Gouveia e Melo, porque quando ele era criança era já engenhocas, é isso?
Sim, ele diz que a mãe não lhe dava muitos brinquedos. Ele vivia em Quelimane, nasceu em Quelimane, em Moçambique, e basicamente brincava na rua e fazia brinquedos e construía os seus próprios brinquedos, e era assim engenhoso, coisa que se manteve ao longo da vida. Portanto, que ele é uma espécie de... Ele não é engenheiro de formação, mas é assim uma espécie de engenheiro físico e matemático, obcecado pelas físicas e as matemáticas, e dedicou-se muito ao desenho e à concepção de drones para uso militar, e foi uma das grandes inovações que ele fez ao longo da carreira e depois já na fase final como chefe de Estado-Maior da Armada. E aí ele conseguiu antever aquilo que vinha aí, que era, enfim, as alterações que haveria no mundo da defesa e da guerra, com a questão dos drones, e uma parte disso nasce também dessa curiosidade de miúdo de fazer esse tipo de coisas, não é?
Covém Melo passou uma boa parte da sua vida debaixo d'água. Talvez falar desse aspecto, porque foram anos seguidos, não?
Sim, ele é o submarinista com mais experiência em Portugal, com mais horas de imersão, e sobretudo nos antigos submarinos da Afné, que eram submarinos comprados nos anos 60, fim dos anos 60, à França, construídos em França, e que, enfim, que na altura já eram tecnologia pós-Segunda Guerra Mundial, ou muito parecida à Segunda Guerra Mundial, e portanto eram submarinos muito, eu não ia dizer arcaicos, mas sim antigos. Tive a oportunidade de navegar nesses submarinos durante 5 dias, a certa altura, e testemunhar o tipo de vida que os homens levavam ali. E ele tem horas seguidas de imersão lá dentro, mais de 2 anos e meio seguidos, se puséssemos o tempo todo seguido que ele viveu dentro do submarino, embaixo d'água, seria isso. Mas, de facto, é uma experiência, conhecendo aquele tipo de submarinos, alguém viver naquelas condições, sem tomar banho, sem... durante sempre que está em função da navegação, com mais de 50 homens naquele espaço muito confinado, quente e desconfortável, é de facto toda uma experiência que eu acho que molda um bocadinho a personalidade das pessoas, não é? Porque é preciso saber conviver com muita gente ao mesmo tempo, respeitar o espaço do outro. A parte da disciplina ali passa muito por isso, não é? Calma, as pessoas têm que manter a calma ali, não se pode enervar muito porque, por causa exatamente do confinamento, do espaço e do tipo de relação que se tem com os outros. As pessoas vivem muito próximo uns dos outros e, portanto, essa fase que eu conto lá dos submarinos parece-me que é uma parte muito importante da vida dele, para definir um bocadinho o perfil da pessoa que ele vem a ser. Com aquele tipo de meios antigo e com uma série de limitações, ele conseguiu fazer coisas muito fora daquilo que era comum. Portanto, ele acaba por ser muito conhecido, ser uma pessoa que faz coisas fora da caixa, imprevistas e inovadoras, no fundo, não é? Levar ao limite os outros, que há muita gente que gosta dele por isso e há muita gente que o detesta exatamente por isso. E, portanto, é daquelas características que servem os dois lados.
Vítor Matos, aliás, no seu livro fala-se nisso, é que ele queixou-se aumentado. Bom, a compra de submarinos. O problema é que entre a assinatura da compra e que os submarinos sejam e efetivamente cheguem a bom porto, entretanto, a nível das tecnologias, bom, há muita coisa que está ultrapassada, de maneira que o tinham a olhar e têm a olhar sobre estas questões bastante afinado, não?
Sim, há colegas dele que me disseram que ele teve na parte da equipa técnica que negociou os novos submarinos e depois também foi ele que os recebeu por uma infelicidade, porque o comandante do navio acabou por falecer e ele comandou esses submarinos também, portanto que chegou a participar na concepção e tudo isso. E há aspectos desses submarinos que foi ele que tentou que os submarinos estivessem já a pensar em operações futuras, como escotilha para saírem nos mergulhadores, como, enfim, uma série de características técnicas que ele terá sido ele, um dos, não é? Membro de uma equipa, mas que foi quem terá puxado por aquilo, não é? Porque ele nessa parte de inovação, ele depois com estes novos submarinos, com os submarinos antigos ele bateu o recorde de imersão, dias de imersão, foi 31 dias, que foi uma coisa que ficou aí, que ele quis bater o recorde exatamente da Marinha Francesa, que eram acho que 30 dias, ele fez 31. E depois, agora com os novos submarinos alemães, ele faz duas coisas, ele promove, quando está como chefe da Marinha, duas coisas que nunca foram feitas, que foi levar o submarino Tridente até ao Arpão, não tenho bem certeza, mas também não interessa, até ao São Paulo, Rio de Janeiro e África do Sul, à Cidade do Cabo. Navegação no Atlântico Sul. O que mostra uma percepção invulgada de uma marinha portuguesa. Portanto, isto cria aqui uma demonstração de que a marinha portuguesa pode estar num sítio qualquer com submarinos. Pronto. Mas o mais importante foi pôr um desses submarinos a navegar, uns submarinos convencionais, a navegar debaixo da calota polar, portanto no Polo Norte, na zona ali do Canadá, para exatamente demonstrar que não são só os submarinos nucleares, nunca um submarino convencional navegou debaixo de gelo durante 4 dias. E ele fez isso, é uma coisa, ele fez isso, ele promoveu isso, ele foi para lá navegar com os submarinistas aqui há 2 anos, e isso é um bocado disruptivo no sentido da defesa daquela área do Ártico, porque a partir de agora os outros países sabem que podem pular também submarinos convencionais. Os americanos não têm submarinos convencionais, só têm submarinos nucleares. Os russos têm submarinos convencionais e nucleares, e portanto países como o Canadá, como a Dinamarca, assim, podem fazer isso também, e portanto foi Portugal o primeiro país com uma daquelas loucuras maluqueiras que nunca teriam sido feitas se não fosse esse lado, digamos assim, de quebrar os limites que o governo Melo tem como característica, não é?
Vítor Matos, se podemos avançar, uma coisa é certa, não é? Aliás, no seu livro há uma 7 minutos de fotografias que, digamos, que completam o texto. Falemos agora do vice-almirante das vacinas. Trata-se de um dos capítulos do livro, isto a propósito da ação de Gouveia e Melo no tempo de Covid. Uma entidade, ele era mais popular e aparecia mais vezes na televisão do que o próprio primeiro-ministro António Costa.
Sim, ele fez ali uma... Foi aí que ele se tornou realmente... Ninguém sabia quem ele era, não é? Tornou-se conhecido nessa altura. E é a partir daí que nasce esta coisa dele ser um candidato presidencial, enfim. O que é que acontece ali? Aquilo era uma altura em que estávamos todos fechados em casa, não é? E que havia aqui uma espécie de comoção coletiva e não sabíamos muito bem o que é que nos ia acontecer coletivamente, não é? Ele, a Ministra da Saúde e a então Diretora-Geral de Saúde apareciam todos os dias na televisão. Eram as pessoas que os portugueses viam, alguém que estava ali a tentar resolver o seu maior problema. E no caso das vacinas, aquilo era fundamental, porque quanto mais depressa, rápido e eficaz fosse o processo de vacinação, mais depressa as pessoas podiam libertar. E portanto, a figura nasce com aquela popularidade, porque foi uma das, ele foi uma das, portanto, o primeiro-ministro estava mais reservado, mas também parecia muito, não é? Mas de qualquer maneira era a Ministra da Saúde, a Diretora-Geral e o Almirante Gouveia e Melo. E ele conseguiu, com um lado de comunicação e depois com aquele lado da organização logística das vacinas e algum impulso que ele teve que dar ali às burocracias do Ministério da Saúde, que aquilo acabou por resultar muito bem em termos de eficácia. E daí que as pessoas passassem a considerá-lo como alguém que teria bons resultados. E aí nasceu essa figura e bastante popular e considerada na população em geral. E eu acho que ele se começa a atrair pela questão da política quando começa a reunir todas as segundas-feiras com os membros do governo. E começa, isto é uma interpretação minha, atenção, é uma interpretação minha. E eu acho que ali começa a pensar, a ver ali a qualidade dos políticos e a pensar, mas se isto é assim, porque não eu? Quer dizer, se estes são estes tipos que são aqui os nossos governantes, bom, quer dizer, aqui eu também posso ser. E portanto eu acho que ele se apaixonou pela ideia aí.
Vítor Matos, significa então o salto do almirante da reforma para a candidata à presidência da República poderá ter origem aí?
Eu diria que, quer dizer, tem duas vertentes aqui. Uma vertente que é o apelo popular, que ele tornar-se muito popular e começar a aparecer, começam a pô-lo nas sondagens, porque os jornalistas começavam a perguntar, porque ele tinha muita intervenção pública, não é? A perguntar se ele se candidataria à presidência da República. Alguém começou por lançar essa possibilidade, já não sei, não se consegui verificar exatamente quem, e começa a aparecer nas sondagens. E então há aqui um duplo efeito, que é o efeito de ele perceber que é muito popular e que tem possibilidades de, enfim, ganhar umas eleições, ou de se bater taco a taco com os políticos profissionais, digamos assim, e depois outra perspectiva que é, de facto, ele também interiormente começar-se a apaixonar por essa ideia e achar isso interessante. E, portanto, é feito da convergência dessas duas coisas e da coincidência de ele estar no lugar do Estado-Maior-General das Forças Armadas, no ENCFA, e que lhe permite exercer este cargo das vacinas. E, portanto, há aqui uma sucessão de coincidências também que levam a isto, senão jamais Gouveia Melo teria sido um candidato presidencial.
Vítor Matos, muito obrigado. Já tivemos a Malianos e agora podemos ter um outro Presidente da República militado?
Quer dizer, segundo as sondagens e os estudos de opinião, é uma possibilidade, não é? Portanto, pode ser como pode não ser. A grande diferença é que nós tivemos vários golpes militares ao longo do século XX em Portugal, e daí uma grande parte, é por aí também uma grande parte de onde vem a questão de um certo preconceito em relação aos militares. Mas até o próprio general Ramalhães, ele vem de uma revolução, ele não estava no 25 de Abril, ele não estava em Portugal, mas depois foi o chamado herói do 25 de Novembro, onde foi fundamental para as operações, enfim, que acabaram no fundo com o PREC. O Gouveia Melo, se for eleito, se por acaso for eleito, é o primeiro presidente que é eleito civilmente, ou seja, é um militar que nunca participou nem em golpes, nem em contragolpes, nem esteve envolvido em qualquer tipo de ação militar, ação política militar, ao contrário de todos os outros militares que exerceram cargos de poder em Portugal, quer na ditadura. Houve 60 anos de presidentes militares, desde 28 de maio de 26 até 1985, até Mário Soares substituir Ramalhianos na presidência da República. E, portanto, foram 60 anos de militares em Belém. E todos eles, direto ou indiretamente, estiveram envolvidos em golpes militares. No caso de Gouveia Melo, se ele for eleito, é um militar que acabou a sua carreira e que decidiu candidatar-se à presidência da República. As pessoas podem gostar dele ou podem não gostar dele, e podem concordar ou não concordar com o que ele defende, mas não é por via de ter participado em golpes militares. Quer dizer, vamos só fazer aqui uma ressalva. O presidente Yanes foi eleito democraticamente duas vezes e é insuspeito de ter chegado ao poder por via de um golpe no sentido estrito. Ele foi um militar que era muito considerado depois pelas pessoas exatamente pela ação decisiva que teve, sobretudo em 1975. Mas sim, quer dizer, será o primeiro militar civilista, digamos assim, pelo menos a ter hipóteses de ter um bom resultado nas eleições presidenciais.
Eu reviens au direct passage à niveau ce dimanche 26 octobre et on va parler d'une conférence sortie de dictature au Portugal et au Brésil qui va avoir lieu le lundi 3 novembre 2025, bien entendu, à la salle des fêtes de la mairie de Brunois, dans le département 91, avec l'historien Yves Léonard, auteur de plusieurs ouvrages sur le salazarisme et la révolution des ayés. Alors la première question, eh bien, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre les deux situations? Le Brésil et le Portugal.
Bonjour. Alors un lien, oui et non. C'est-à-dire que d'abord, il y a une chronologie qui est intéressante. Et moi, ce qui m'intéressait en cette année France-Brésil, et puis il y a eu l'année France-Portugal, il y a eu les commémorations au Portugal du 50e anniversaire. Et puis au Brésil, formellement, la transition, elle est datée plutôt de 1985, c'est-à-dire il y a 40 ans. Donc il y a une logique un peu anniversaire. Après, sur les liens, c'est assez compliqué parce que, en fait, la révolution des œillets portugaise a suscité beaucoup d'espoir au Brésil, qui était dans un système dictatorial, dirigé par des militaires, et les années de plomb, ce qu'on a appelé les années de plomb, et donc cette révolution des œillets a beaucoup inspiré les opposants au Brésil. Chico Buarque, beaucoup de milieux intellectuels se sont emparés de la révolution des œillets, il y a eu des chants, etc., qui ont célébré la révolution, et pris pour modèle l'œillet portugais, c'est-à-dire cette capacité à rompre assez directement et assez brutalement, en une journée, passer d'une dictature et entamer un processus révolutionnaire. Mais pour autant, côté brésilien, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé plutôt sous un modèle qu'on pourrait qualifier le modèle un petit peu de la transition négociée, de la transition pactée, un peu le modèle, on va dire, espagnol. C'est-à-dire que le processus, à partir de 1979-1980, a commencé à se développer pour aboutir en 1985 au Brésil avec Tancredo Neves qui devait prendre en main cette transition, élu président, et puis finalement il est décédé avant son investiture. Et c'est donc José Sarney, un homme de l'ancien régime, qui a porté cette transition, qui est une transition très très ambiguë. Et c'est pour ça que le modèle de la révolution des œillets est une source d'inspiration, mais n'a pas servi, n'a pas été importé au Brésil. Pour autant, ça a suscité beaucoup d'espoir, et puis il y a eu des passerelles qui se sont créées, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'intellectuels et d'opposants brésiliens qui ont pu venir au Portugal après la révolution des œillets et ont essayé d'attirer aussi l'attention internationale. Il y a eu l'international socialiste qui s'est réuni à Caracas en 1976, puis à Lisbonne en 1978, qui ont montré l'importance de ce qu'il fallait faire au Brésil. Pour autant, la voie, on va dire, à la portugaise et même social-démocrate, ensuite, n'a pas été directement apportée au Brésil. Voilà le résumé un peu.
Yves Léonard, une question. Alors, aujourd'hui, par rapport à aujourd'hui, j'ai deux questions. Enfin, je commence par la première. Et finalement, aujourd'hui, comment est-ce que les deux nations regardent au fond face à l'histoire de leur dictature? Est-ce qu'il y a des différences entre les deux pays?
Oui, il y a des différences et puis il y a des similitudes. Comme toujours, c'est deux nations sœurs, on dit souvent. Mais les différences, elles tiennent pour beaucoup justement à la nature de la transition. C'est-à-dire que au Portugal, il n'y a pas eu d'épuration massive, certes, mais il y a eu une rupture assez claire entre la situation avant le 25 avril 1974 et après. Pour un certain nombre de raisons, il y a eu après des retours de dignitaires de l'ancien régime au Portugal, etc. Mais il y a eu, pendant plusieurs mois, le processus révolutionnaire, des processus aussi de mise à l'écart de tous ceux qui avaient servi l'ancien régime. Au Brésil, rien de tout cela. C'est-à-dire que ça s'est fait dans la négociation, dans la logique, un peu à l'espagnol, de la réconciliation, avec une loi d'amnistie en 1979 qui a anticipé tout ça, et donc qui a permis finalement à tous les dignitaires de l'ancien régime dictatorial de rester plus ou moins en fonction. Et donc le regard qui a été porté évidemment sur la longue durée par rapport à ces dictatures sont de nature différente. Et puis aussi, ça tient pour beaucoup à la nature même de ces dictatures. Si on regarde le cas brésilien, celui avec la transition formelle à partir de 1985, ça clôt un processus qui commence en 1964, en gros, hein, c'est-à-dire une vingtaine d'années militaires, à dominante militaire. Dans le cas portugais, c'est un processus, la dictature a duré formellement plus longtemps, l'histoire de Novo Salazaris, enfin près d'un demi-siècle, 48 ans depuis la dictature militaire de 1926, donc et avec des contextes évidemment géopolitiques qui sont différents. Mais côté portugais, l'effet 25 avril, c'est-à-dire la célébration d'une date emblématique, iconique, qui symbolise justement ce passage d'un régime, d'une dictature à autre chose, il n'y a pas d'équivalent au Brésil, tout comme en Espagne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une date identifiée clairement qui puisse signifier qu'il y a un passage net entre un système et un autre. Alors après, la tentation, évidemment, de, comme on dit, de mettre la poussière sous le tapis, elle est toujours présente, hein, dans tous les pays qui ont connu d'aussi longues dictatures. Elle l'est particulièrement au Brésil, malgré des lois, malgré des dispositifs, commission de la vérité historique en 2014, mais on voit bien que c'est encore un regard très compliqué que le Brésil porte sur sa dictature, avec ce retour sur l'avant-scène des vieux démons, si l'on peut dire, avec Bolsonaro en 2018, et un arrière-fond qui suscite beaucoup d'interrogations, beaucoup d'inquiétudes au Brésil encore aujourd'hui, moins au Portugal, même si au Portugal, on observe aussi, on va dire, des tentations révisionnistes, de remettre, de détricoter un petit peu tout ce qui a entouré le 25 avril, avec un certain nombre de polémiques, l'émergence d'une extrême droite avec Chega, qui ne fait pas mystère de sa volonté d'en finir en quelque sorte avec le 25 avril, pour mieux célébrer le 25 novembre. Bref, tout ça participe évidemment d'un mouvement qu'on observe hein, de manière transnationale, d'un mouvement de remise en question de ces passages, de ces transitions démocratiques.
Yves Léonard, une dernière question. Bien sûr, l'histoire se fait sur un temps long, mais est-ce que parfois l'histoire ne bégaye pas ? Justement, vous avez parlé de Bolsonaro. Au Portugal, l'extrême droite, justement, c'est le deuxième parti le plus représenté à l'Assemblée de la République. Ben, finalement, l'histoire, ça nous sert pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, là où on est aujourd'hui, et on va vers où. Normalement, l'histoire sert à ça.
Oui, l'histoire, théoriquement, nous donne, sinon des leçons, mais on peut tirer un certain nombre d'enseignements. Après, on est rentré dans des systèmes, vous savez, à l'échelle planétaire, on va dire le système trumpien, l'ère de la post-vérité ou des vérités alternatives, comme il dit. C'est-à-dire qu'il y a une volonté assez forte aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de détricoter, mais de réécrire cette histoire, d'abord en embellissant, en enjolivant le passé dictatorial, c'est un phénomène assez général, et puis sur les processus transitionnels, et notamment sur la révolution des œillets, de dire à quel point finalement, pour certains, une partie de l'opinion, à droite et surtout à l'extrême droite, en gros qu'on aurait pu faire l'économie du 25 avril et peut-être construire quelque chose comme le chemin, la voie qu'a emprunté l'Espagne après la mort de Franco. Donc on est aujourd'hui dans un système de remise en question, donc on va dire de dénaturation ou de réécriture de ce que la dictature fut et le processus transitionnel, et évidemment avec de telles remises en question qui ne sont pas fondées historiquement, et tout le problème est là, c'est-à-dire que ce sont des, je parlais de révisionnisme, ce sont des procédures qui sont dans l'air du temps, qui consistent à déconstruire, si vous voulez, mais pas comme on l'entend habituellement, de déconstruire ces fondements même de la démocratie. C'est là qu'il y a une interrogation très vive, et j'insiste là-dessus, il y a un air du temps, c'est-à-dire Trump aux États-Unis, on a vu avec Bolsonaro, beaucoup en Europe aussi, qui se réunissent pour célébrer un certain nombre de valeurs qui sont totalement antinomiques de la démocratie telle qu'elle s'est instaurée dans les pays comme le Portugal en 1974-1976. Et ça, effectivement, alors c'est pas l'histoire bégaye, oui, d'abord comme une la farce et la tragédie, comme disait Marx, mais il y a une interrogation très vive, effectivement, on a le sentiment, et ça concerne aussi les jeunes générations, c'est pour ça qu'il faut faire de l'histoire le plus possible, c'est-à-dire de dire de manière aussi sourcée, aussi précise que possible, comment les choses se sont passées, et ne pas les dénaturer pour construire une espèce de remise en question, d'imaginer l'avènement de systèmes, on va dire, illibéraux, d'autoritarisme fort peu démocratique, basé sur la résurgence de ce passé dictatorial, et un passé dictatorial qui est banalisé, sinon enjolivé. Donc ça, l'interrogation, l'inquiétude, elle est vive.
Merci Yves Léonard. Donc je rappelle, conférence à Brunois, ça sera le lundi 3 novembre entre 14h30 et 16h30 à la salle des fêtes. Le thème: sortie de dictature au Portugal 1974 et au Brésil 1995 entre rupture et pacte de l'oubli.
Nem mais nem menos. E já agora, ligado a isto tudo, está a exposição que continua patente na Casa de Portugal, mesmo André de Gouveia, na Cidade Internacional de Paris, Universitário Internacional de Paris, com a exposição Chanson de l'Exil Portugais à l'aube de la Revolution des Oeillets 1974. E a ligação continua com a canção que vamos ouvir agora. Trata-se de um tema de José Afonso e é O título é Alípio de Freitas. Quem é o Alípio de Freitas? É o próprio José Afonso que vai explicar.
Chama-se Baía da Guanabara e é uma espécie de homenagem feita a um sacerdote católico. Infelizmente, não é um sacerdote muito comum em Portugal. Um homem que fez a sua formação teológica em Braga, passou por África, no tempo do domínio colonial fascista, finalmente radicou-se no Brasil e aí envolveu-se nas lutas dos camponeses contra o poder dos latifundiários, a cana-de-açúcar, e de tal forma se identificou com os problemas dessa gente que acabou por ser preso pela CIA, pela DOPS brasileira, e soubemos muito recentemente que ele está em Portugal e já estivemos com ele. Portanto, é mais ou menos uma homenagem que fazemos ao Alípio de Freitas.
Baía da Guanabara, Santa Cruz na fortaleza, está preso Alípio de Freitas, homem de grande firmeza. Em maio de 1070, numa casa clandestina, com a companheira e a filha, caiu nas garras da CIA. Diz Alípio a nossa gente, quero que saibam aí, que no Brasil já morreram a tortura mais de mil. Diz Alípio a nossa gente, quero que saibam aí, que no Brasil já morreram a tortura mais de mil. Ao lado dos explorados, no combate à opressão, não me importa que me matem, outros amigos virão. Lá no sertão nordestino, terra de tanta pobreza, com Francisco Julião, forma as ligas camponesas. Na prisão de Tiradentes, depois da greve da fome, em mais de cinco masmorras, não há tortura que o dome. Na prisão de Tiradentes, depois da greve da fome, em mais de cinco masmorras, não há tortura que o dome. Fascistas da mesma igualha, ao tempo Carlos Lacerda, sabe que o povo não falha, seja aqui ou noutra terra. Em Santa Cruz há um monstro, só não vê quem não tem vista. Deu sete voltas à terra, chamaram-me imperialista. Diz Alípio à nossa gente, quero que saibam aí, que no Brasil já morreram a tortura mais de mil. Diz Alípio à nossa gente, quero que saibam aí, que no Brasil já morreram a tortura mais de mil.
José Afonso, o tema Alípio de Freitas.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Deuxième heure de passage à niveau, ce dimanche 26 octobre 2025, émission avec rediffusion dans la nuit du mardi au mercredi à partir de 0h, sans oublier le podcast. Eh bien, mes amis, on va au théâtre, mais un théâtre musical, s'il vous plaît. Maestro, il arrive, maestro, il arrive. Bon, je vais parler, bien entendu, de la pièce que j'appelle du théâtre musical, bon, mais... l'autrice, mais également quelqu'un que, sans qui cette pièce n'existerait pas, nous va parler tout à l'heure, mais voilà un petit extrait de ce qu'on appelle la bande-annonce. Bon, pour tout vous dire, Soldat ici et là-bas, une pièce qui va être représentée, oh, ce sera au mois de novembre, concrètement le 8 novembre à 20h30, 8 novembre 2025, toujours au Théâtre des Bris sur Marne.
Une partie de moi veut garder cette maison, mais je sais que c'est pas raisonnable. La belle maison qu'aujourd'hui tu veux vendre, j'en connais pas l'histoire.
L'histoire du Portugal ou l'histoire de notre famille?
Bah, les deux finalement.
Ton grand-père était musicien, ta grand-mère chantait.
Donnez-y
J'avais tous les membres qui avaient.
Il venait de famille pauvre. Il n'y avait qu'une perspective, fuir la misère.
Je connais des gars qui s'organisent pour partir.
Je te plaît, tu crois que tu vas les réaliser comme une rêve? En partant, en me laissant.
Je pars ce soir à la mémoire de tes grands-parents, grands artistes.
J'ai tellement la Soldat de papa et maman.
Moi aussi.
C'est quoi la Soldat, Auguste?
La Soldat?
Eh bien, justement, la question, je vais la poser. Je commence par poser Danny Gottschalk. Bonjour et merci d'être avec nous et avec ta gratte.
Bonjour.
Voilà, le ton est donné, mais on va parler maintenant avec la responsable. Eh oui, il y a toujours un responsable pour les choses qui arrivent. Isabelle Rivelle, bonjour.
Bonjour, hola a todos.
Hola a todos, et muito boa tarde, igualmente. Isabelle Rivelle, apparemment, c'est votre faute, hein, l'existence de cette pièce, parce que vous êtes l'autrice du texte.
Voilà, tout est de ma faute, je suis la coupable, pardon.
Alors, justement, la genèse, bon, parce que Soldat, bon, c'est un sentiment, bon, il y a du bruit de mauvais là-dedans, hein, c'est à y avoir et à manger. Mais cette pièce, elle vient d'où exactement l'idée d'écrire cette pièce? Parce qu'ici, là-bas, bon, après, on parlera un petit peu de l'histoire de la pièce, mais enfin, d'où ça vient?
Bah, au départ, c'était donc un documentaire que je voulais faire il y a très longtemps, où je voulais faire témoigner toutes les personnes qui ont vécu cette partie de l'histoire à la fois portugaise et française, hein, cette immigration portugaise en France. Et puis, bah, ça s'est jamais vraiment fait. Et puis, les années sont passées et on m'a contactée pour une commande, en fait, une commande de pièces autour de la culture portugaise. Et puis, alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter? Il y a tellement de choses, la culture portugaise. Là, je me suis dit, non, mais attends, mais pourquoi pas reprendre ce sujet que j'avais tellement à cœur de raconter et d'en faire une pièce de théâtre. Mmh. Voilà.
Dan, comment ça s'est passé par rapport... Parce que, bon, je n'ai pas oublié quelqu'un, c'est Alexis de Sceaux, le metteur en scène. Oui. Parce que le metteur en scène, l'autrice ou l'auteur d'un texte, il peut écrire un texte, mais le metteur en scène est là pour mettre l'ordre dans les affaires. Alors, Danning, bon, merci à nouveau d'y soit là. Justement, ta participation à la pièce, ça a été depuis le début, tu as participé à l'élaboration?
Un petit peu, oui. Un petit peu. Mais en fait, Isabelle avait lancé une annonce sur Internet, hein, tout simplement, et où elle cherchait des guitares portugaises. Et tu sais très bien que je suis plus qu'impliqué sur le fado avec l'association Gaivote. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, il y en a des guitaristes portugais sur Paris, mais ça va être compliqué quand même. Et surtout si c'est pour les faire jouer. Et puis là, je lui ai répondu directement. Par contre, si tu es pas trop regardante, peut-être que moi, je pourrais me proposer à faire ce que je peux avec ma guitare. Et puis, elle en a parlé à Alexis Desceaux, donc qui lui avait fait cette fameuse commande dont elle parlait il y a 3 secondes. Et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi.
Ça a démarré.
On a commencé à travailler sur ce qu'elle avait envie de parler, sur les personnages, et puis l'histoire a commencé comme ça. Et puis petit à petit, bah, elle a écrit l'histoire et ce qu'elle avait envie de raconter par rapport à ce que tout le monde a un peu vécu, aussi bien pour les Portugais, mais pour tous les déracinés, tous ceux qui partent d'un lieu pour aller vivre sur les grandes métropoles, quoi. C'est valable pour les Portugais, mais c'est valable pour les Algériens, les Tunisiens,
pour les Bretons,
les Espagnols,
pour
les Italiens, Bretons. Les Bretons, exactement, à l'intérieur même d'un propre pays, ou même du Portugal, les provinces qui s'en vont. Qui sont vendus sur les grandes villes.
Alors, tout à fait dans le public, les moments où on a eu dans le public des personnes qui ne sont pas d'origine portugaise, elles ont été aussi extrêmement touchées, elles sont reconnues, donc pour celles qui, notamment qui venaient d'autres pays, elles ont reconnu aussi leur histoire à travers cette famille de luso-descendants. Et en même temps, c'est vrai, même des Français qui ont bougé d'une région à l'autre, bah, qui eux aussi ont reconnu une part de leur histoire avec cette vente de maison familiale. Et comme tu disais, Dan, voilà, c'est vrai, Alexis Desceaux voulait qu'on raconte ce peuple. Qu'on croise tous les jours, qu'on raconte qui ils sont et qu'on puisse aller aussi au-delà de certains clichés qu'on peut avoir. C'est pas qu'une communauté silencieuse, c'est une communauté qui a beaucoup de choses à dire et aussi qu'on les découvre à travers de la musique et à travers voilà toutes ces générations différentes sur scène.
Alors justement, bon, je ne vais pas dévoiler la pièce tout entière, il faut aller la voir. Mais bon, là, on a parlé de déracinement ici et là-bas. Peut-être quelques explications, parce que la base, Isabelle, vous avez parlé ça tout à l'heure, c'était une maison à vendre. Peut-être expliquer un petit peu.
Oui, alors en fait, donc la pièce est en deux parties. Et donc dans cette première partie du spectacle, donc on suit le frère et la sœur qui sont au Portugal accompagnés de leur neveu qui lui représente l'autre sœur qui n'a pas pu se déplacer. Ils sont donc tous au Portugal pour l'histoire pour la vente de la maison des parents qui sont décédés. Donc voilà, donc là c'est avec tout ce que ça implique de ressasser aussi des situations, de pouvoir vraiment exprimer des choses qu'on garde sur le cœur, quoi. Et c'est le moment un peu où tout ressort. Et l'occasion aussi d'expliquer à ce neveu qui connaît pas grand chose de l'histoire de ses grands-parents, même de l'histoire du Portugal. Il a été assez coupé de tout ça, finalement. Et, lui raconter, en fait, qui étaient ces personnes, qui est ce peuple. Et puis, il va se rendre compte aussi à travers de toutes ces histoires qu'il y a beaucoup de choix qu'il a fait dans sa vie, qui finalement étaient de façon inconsciente, influencés aussi par tout ce chemin de ses ancêtres. Et dans la deuxième partie du spectacle, c'est un flashback donc dans les années 60, 70. Et en fait, donc on voit les grands-parents quand ils étaient jeunes à Lisbonne avec tous ces rêves de en tout cas pour elle, une espèce des rêves comme ça de gloire parce qu'elle chante, alors elle a envie. Mais c'est surtout aussi pour aller plus loin et plus haut que sa condition sociale et pour aider sa famille. Et puis Manuel, cet homme qui lui se rend bien compte qu'en fait il n'y a pas de futur là au Portugal et qu'il faut partir en fait pour construire quelque chose. Et donc et tout ce que ça représente comme déchirement. Et donc voilà, c'est l'histoire de cette famille qui est en fait l'histoire de beaucoup de familles et beaucoup de gens reconnaissent leur histoire personnelle dedans parce que pour créer en fait toute cette histoire, moi je me suis inspirée de plein de petites histoires, que ce soit dans ma famille ou de gens autour de moi, autour de mes parents. Et voilà, et j'ai construit un peu un canevas de tout ça pour faire une seule histoire.
Mais Isabelle, au milieu de tout ça, il y a aussi les générations. Ça, c'est très important. Je pense que dans la pièce, bon, justement, il y a les anciens, entre guillemets, et une nouvelle génération. Bon, on a la deuxième génération de jeunes d'origine portugaise. Bon, les générations ne m'en parlaient pas, s'il vous plaît. Mais il y a un petit peu ça aussi, les regards différents. Ça concerne chaque génération à son regard par rapport aux choses.
Tout à fait, tout à fait. Bah, il y a déjà dans ces trois personnages qu'on voit dès le début du spectacle, il y en a un qui, lui, donc Idalio, qui est né au Portugal et qui a dû le quitter enfant et qui est venu en France. Donc il y a déjà un déchirement, il y a une histoire personnelle très particulière. Il y a ensuite cette sœur qui, elle, est déjà née en France. Donc pareil, c'est un autre regard. Et puis ce neveu, donc qui est beaucoup plus jeune qu'eux, donc c'est leur neveu. Et lui, voilà, son regard aussi sur ses origines et tout. Et puis il s'en fiche un petit peu, en fait. C'est pas vraiment sa priorité à son âge. Et à côté, voilà, ses grands-parents qui sont là un peu... En mode un peu, on va dire, fantôme, parce qu'on parle d'eux dans la première partie et puis qu'ils sont réellement là dans la deuxième partie. Et effectivement, c'est tout le Portugal, toute l'histoire du Portugal, d'un peuple à travers toutes ces générations et le rapport qu'on a à la culture et comment on la transmet ensuite aux générations suivantes, quoi.
Alors, ce qui est bizarre, c'est que justement la première génération, qui en fait sur le flashback, le retour en arrière par rapport aux parents, on s'aperçoit qu'il y a les différentes Saudades. Justement, en revenant derrière. D'ailleurs, je crois que Mizia avait sorti une phrase comme ça. En fait, pour avoir vraiment la Saudade, il faut être en dehors du pays. Et la Saudade, c'est ceux qui ont vécu, qui vivent en France, comme mon personnage ou le personnage joué par Isabelle, qui ont la Saudade de ce pays. Et quand on fait le flashback, en fait, la première génération qui a à peu près aux alentours de 20 ans, ont cette Saudade du futur, de vivre mieux, quoi.
De ce qu'ils connaissent pas, quoi. De ce qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a au-delà des. Elle le dit dans le texte, d'ailleurs. Hilda, elle le dit. Elle dit, mais est-ce que tu crois qu'au-delà de nos montagnes et de la mer, quoi. Est-ce que tu crois qu'il y a notre vie qui nous attend? Donc en fait, il y a même une saudade de l'inconnu, de quelque chose comme ça qui semble à la fois loin, mais qu'on peut peut-être toucher finalement.
Alors, saudade, on a parlé, bon, la pièce parle, on va vendre une maison. Et au niveau des chansons, justement, et on me casse. Bon, je ne vais pas commencer à citer, sinon la pluie va arriver plus vite. Mais justement, Dan est venu avec sa gratte, et je pense qu'il va nous donner un petit... Alors, peut-être une explication.
Et à un moment donné, justement, sur la deuxième partie, c'est plutôt Isabelle. Je sais pas si elle serait capable de le chanter via le téléphone.
Mais il y aura un décalage dans le son, je crois. Ça marche pas.
Ah oui. Donc on peut toujours essayer, on verra.
Je vais le chanter. Si tu le sens, bah, essaie de chanter. Et c'est sans trop dévoiler la période du mariage. Mañana tan bonita, mañana la vida una nueva canción cantando só teus olhos te rizo tuas mãos pois há de haver dia em que virás. Nas cordas do meu violão, que só teu amor procurou, vem uma voz falar dos beijos perdidos nos lábios teus. Canto meu coração, alegria voltou, tão feliz amanhã desse amor. Canto meu coração, alegria voltou, tão feliz amanhã deste amor.
Là, t'as chanté la deuxième, les autres couplets, du coup, et moi,
j'allais pas piquer ta partie.
Du coup, je pouvais pas t'accompagner. La musique a une place très importante dans la pièce, parce qu'on voulait vraiment un voyage. Alexis voulait que les gens ils partent en voyage, ils soient projetés comme ça dans un autre pays, vraiment dans une espèce d'ailleurs qui est un voyage, et puis aussi un voyage dans la langue portugaise et toutes ces. Toutes ces déclinaisons, quoi, dans tous ces pays lusophones, en fait. Donc, il y a de la musique qui représente vraiment aussi la lusophonie. Il y a du créole capverdien, il y a donc cette chanson brésilienne, et ensuite il y a la chanson portugaise. Voilà, c'est un vrai voyage aussi dans le monde de la lusophonie.
Alors, à propos de voyage, bon, la pièce, finalement, Saudade ici et là-bas, a voyagé déjà pas mal d'endroits en France, 2 années de suite au Festival d'Avignon. Alors, Isabelle, justement, cette expérience, bon, vous avez réussi quand même à trouver des soutiens. Ça, c'est très important de le rappeler, de revenir au Festival Off d'Avignon en 2024, la première expérience 2023. Et là, bon, c'est ça qui est important, peut-être, bon, revenir au début, c'est que c'est pas un spectacle pour les Portugais uniquement, loin s'en faut. Parce que c'est Avignon, et Avignon, il y a peut-être un Portugais. Oui, il y a des Portugais partout. Est-ce qu'il n'y a pas de Portugais, ma fille?
Alors, il se trouve qu'on a eu, je crois que c'est au deuxième Avignon, on a eu une famille avec un monsieur qui était d'origine portugaise. Alors lui, pareil, voilà, c'était, j'ai reconnu mon histoire, tout ça. Mais effectivement, Avignon, le défi, c'était, alors déjà, oui, merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus pour qu'on puisse faire ces festivals. Voilà, ça c'est très très important parce que en fait c'est vraiment du travail collectif. Tout le monde a mis la main à la pâte et ça nous a vraiment beaucoup beaucoup aidé. Et en ça on les remercie. Et donc oui, effectivement, Avignon, le défi c'était se retrouver face à un public qui n'a pas de lien en soi avec le Portugal, quoi. Parce qu'en général, c'est vrai que c'est un public plutôt bon, il y a des publics de partout, mais je veux dire, ça se destinait pas à un public portugais. Là, c'était le public du Festival d'Avignon. Donc, en plus, c'est un public un petit peu exigeant quand même, parce que voilà, il a l'habitude de voir des pièces, tout ça. Et en fait, ce qui était incroyable, c'est que à chaque fois, ils étaient mais complètement touchés et cueillis par cette histoire. Et à la fin, quand on discutait avec eux, ils nous disaient quoi, à quel point ils étaient partis en voyage avec nous et ils avaient vraiment aimé cette histoire de famille, vu aussi les parallèles avec leurs propres histoires ou ce qu'on peut entendre aujourd'hui même dans l'actualité. Et donc oui, ça c'est vraiment important parce qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, une histoire qui résonne chez tous. C'est pas que on raconte les Portugais, d'accord. Donc forcément, alors eux, ils sont complètement touchés directement au cœur et on échange beaucoup avec eux après. Et puis d'un coup, les langues se délient, parlent de leur histoire. Les enfants restent avec les yeux comme ça parce que leurs parents leur ont jamais raconté tout ça, parce qu'on n'en parlait pas dans les maisons, parce que c'était un peu tabou, parce que ça faisait mal et on n'osait pas aborder le sujet. Bah d'un coup, tout d'un coup, il y a des partages qui se font et c'est vraiment le but aussi de cette pièce. Et à côté, les personnes qui sont pas d'origine portugaise et qui sont elle-même, voilà, cueillie, et pour nous, ça, c'est une victoire à chaque fois.
Et là on parle du fond, mais à la finale, comme n'importe quelle autre histoire qui se fait au cinéma ou au théâtre, c'est quand même une histoire d'amour, tout simplement, une histoire d'exil. Il n'y a pas besoin d'être portugais pour le vivre, comme on disait tout à l'heure. Et ça, forcément, ça touche tout le monde. Cette vente de la maison, ça touche tout le monde. Une histoire d'amour, ça touche tout le monde. Voilà. Si on présentait juste les choses comme ça, on s'aperçoit que évidemment, ça peut parler. Alors évidemment, l'histoire se passe à Lisbonne, probablement, si on le dit que ça se passe à Lisbonne. Mais voilà, c'est une histoire tout à fait commune. C'est une aventure humaine.
Alors, il faut partir de soi, de ce qu'on connaît, quoi, pour toucher le plus grand nombre. Et en tout cas, moi, quand j'ai écrit cette histoire, il fallait pas chercher midi à 14h plein d'idées. Il fallait juste dire, bon, attends, moi, je viens d'où, je vais raconter quoi de moi, sans que ce soit vraiment
aujourd'hui,
moi.
Aujourd'hui, avec le décalage horaire, il faut peut-être chercher midi à 14h.
et du coup, voilà, et c'est comme ça qu'on touche le plus grand nombre, quoi.
Alors, une pièce, ça se fait avec un auteur, une autrice, je parle de soldats d'ici et là-bas, d'un metteur en scène, Alexis Dessault, mais également des acteurs. Alors, Isabelle Ruber, bon, elle a commis les deux fonctions, Dan Ingelsson, donc acteur, musicien, compositeur, et je pourrais continuer comme ça, et un troisième larron, je dis ça dans le bon sens du terme, hein, s'il vous plaît, Simon, il faut pas s'y méprendre, Simon Quintana, Quintana. Bon, je le dis comme ça, portugais, ça ne veut rien dire, mais enfin. Alors, justement, ce travail, parce que c'est un travail d'équipe, parce qu'une pièce, ça se fait pas, ça se fait, bon, là, au cas concret, c'est à trois.
Ce qui est marrant, c'est que tu dis ça, parce que, en fait, dans l'histoire, Simon joue, donc, dans la première partie, il joue Manu, et dans la deuxième, il joue différents personnages, en fait. Il disparaît pas, mais au contraire, il vient avec plusieurs personnages. Il vient en tant que Zé, et qui nous accompagne avec l'accordéon, mais il est aussi un espèce de trubillon qui a une connivence avec le public. Et si dans l'histoire, dans la première partie, il est luxembourgeois, en fait, il est réellement il a des origines du Pays Basque. Et du coup, il y a quand même un écho par rapport aux Portugais qui ont passé les montagnes. Mmh. Et donc lui, il en a pas forcément, il l'a pas forcément, puisque vu son jeune âge. Mais il y a quand même un écho là-dessus. Et même lui s'est retrouvé dans cette histoire, en fait. Et c'est vrai que qu'il apporte beaucoup d'humour aussi. En plus, c'est un garçon qui a un humour né, quoi. Mmh. Et les gens, tu sais qu'il y a du public qui est venu voir le spectacle 2-3 fois, voire un petit peu plus, hein, sur les différentes salles qu'on a jouées. Et ceux qui nous ont vus au départ peuvent revenir parce que si la trame est à peu près la même, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé et ce fameux Simon Quintana apporte quelque chose de nouveau, quoi.
D'ailleurs, chaque représentation, je crois, est différente. Parce que il y a notre état d'esprit, il y a le public, il y a quelque chose qui se passe, donc il y a certaines choses qui changent.
Oui.
Alors, justement, à propos de spectacle, le prochain, ça sera le 8 novembre à Brie-sur-Marne, concrètement, au théâtre de Brie-sur-Marne. Il y a d'autres dates, bon, mais déjà, on va savoir que c'est là, et après, vous allez dans le berceau de la communauté portugaise France. En France.
De Gaulle sort de ses corps.
À Champigny-sur-Marne, au théâtre Gérard-Philippe. Bon, mais déjà, ce sera l'année prochaine. Mais maintenant, on va savoir que
c'est tellement proche, c'est l'année prochaine. Mais c'est tellement proche.
On aura le temps, cher monsieur.
Et je sais bien, mais sachez quand même, mon cher monsieur, que les places sont déjà en vente. Donc n'hésitez pas à y aller.
La billetterie est ouverte. Bon, mais déjà, pour ce 8 novembre au théâtre, peut-être une invitation, Isabelle, aux futurs spectateurs.
J'ai pas compris, pardon.
Une invitation, vous voulez inviter les gens à y aller à Brie-sur-Marne?
Ah mais oui, mais venez déjà. Le lieu, c'est un super joli théâtre. Mmh. Les gens sont vraiment très très gentils dans ce lieu. Virginie Pradal, donc, qui nous a fait confiance, qui est venue nous voir à Avignon et qui nous attendait à la fin, mais complètement bouleversée en disant mais vous allez venir à Brie-sur-Marne, c'est évident, quoi. Dan, lui, ça faisait très longtemps qu'il disait viens nous voir. Elle pouvait pas. Puis là, elle a dit bon, j'ai une fenêtre, allez, j'y vais. Et elle est sortie de là tellement, et donc on fait partie d'une superbe programmation, donc on est très très touchés, très heureux. Donc oui, venez à Brie-sur-Marne, vraiment, on est tellement heureux en plus de revenir, ça fait donc un petit moment qu'on n'était pas sur scène, à cause forcément aussi de nos plannings les uns les autres assez chargés. Et donc voilà, on est très heureux de redémarrer par Brie-sur-Marne et on vous attend vraiment très nombreux. Il reste plus beaucoup de places, donc
il faut se dépêcher.
C'est vraiment les dernières.
Bon, merci Isabelle Ribel, bien entendu, donc le 8 novembre à 20h30, précise, parce qu'au théâtre, et n'oubliez pas de débrancher, de couper le son de vos téléphones, s'il vous plaît, autrement, vous allez être expulsé de la salle. Merci Isabelle, merci Dan aussi d'être venu dimanche.
Toujours un plaisir,
Je vous ai arraché à vos familles respectives. Merci, et bem-ajam. Bom, e agora vamos continuar no universo da música, não é teatro, longe disso, para falar precisamente de um espetáculo. Isto no quadro de uma parceria com a Leiria Cidade Criativa Musical da Unesco, com efeito a Maison de Portugal, André de Gouveia, na Cidade Internacional Universitária de Paris, organizou um concerto na terça-feira, dia 28 de novembro, a partir das 20 horas, com o instrumentista José Guilherme Neves, acompanhado ao piano. O que é que ele toca, José Guilherme Neves? Pois bem, trata-se pura e simplesmente tuba. Não sabe o que é? Vai saber o que é a tuba. É feminino. Ora, quisemos saber um pouco mais, tanto mais que José Guilherme das Neves tem 21 anos e tudo começou aos 8 anos de idade. Mas porquê? Por iniciativa própria ou foram os pais?
Muito boa tarde. Eu, quando comecei, na música, os meus pais, de certa maneira, tiveram algum impacto porque eles sempre me proporcionaram ter, o máximo de atividades extracurriculares possíveis. E a música sempre foi uma delas. E portanto, quando eu era pequenino, apaixonei-me pelo som da tuba e depois, aos 8 anos, comecei a tocar eufónio, que é um instrumento mais pequenino que a tuba, porque com 8 anos fisicamente não é possível tocar ainda a tuba, e portanto 4 anos depois tocar eufónio mudei para a tuba, onde agora, claro, acabei por seguir a carreira profissional.
Mas a escolha desse instrumento, isso fazia parte, bom, porque estava num conservatório, fazia parte do... Como é que descobriu o instrumento, finalmente?
Portanto, eu estava numa pequena... estava numa pequena atividade que se chama que é o Berço, que é na Sociedade Física e Musical dos Povos. São atividades organizadas por essa instituição, que é uma aldeia mesmo ao lado de Leiria. E nessas aulas, havia uma das aulas que o professor levava um instrumento diferente todas as semanas. Por exemplo, uma semana levava o clarinete, outra semana levava o violino, e um dia levou a tuba. E eu, quando ouvi a tuba, disse: mãe, é isto que eu quero fazer, eu quero tocar tuba, e desde então, pronto, foi quase um amor à primeira vista.
Mas a Cafreque, bom, teve toda uma série de aprendizagens, passou por conservatórios, talvez resumidamente explicar a forma como chegou àquilo que é hoje é solista, hoje trabalha igualmente com orquestras. Qual foi a sua formação, entre aspas?
Portanto, eu tive bastante, portanto, eu comecei na Banda Filarmónica de Esposo e na Escola de Música da SAMP, foi onde eu comecei por portanto, os meus passos musicais, e foi onde conheci a tuba. E portanto estudei durante alguns anos, e depois mais tarde acabei por mudar para o Orfeão de Leiria, que é a escola de música, uma das escolas de músicas também de Leiria, onde fiquei até aos 18 anos. E depois fiz aí até o ensino superior, até o ensino secundário, e depois, para o ensino superior, acabei por vir para Amsterdão, onde neste momento estou a estudar no Conservatório de Amsterdão, onde estou no meu último ano de licenciatura.
Entretanto, podemos dizer que tem uma carreira internacional?
Sim, porque eu diria que comecei, portanto, por tocar em muitas bandas na região de Leiria, e em 2019 surgiu a oportunidade de fazer um estágio em que me candidatei, depois acabei por ser aceito, aqui também na Holanda, da Orquestra da Concerto Rabal, um estágio que se chama Concerto Rabal Young, para jovens entre os 14 e os 17 anos, e foi aí que dei o primeiro salto internacional, digamos. Foi aí onde eu também conheci o meu atual professor, uma pessoa que é muito importante para mim, e depois desde aí toquei em diversas orquestras de jovens e também profissionais. Toquei com a Jovem Orquestra Portuguesa, fomos também tocar ao festival Young Girl Classic, o meu festival de orquestras de jovens do mundo, na Concerthal de Berlim. Toquei com a Orquestra de Jovens holandesa durante 2 anos, e com eles também fui a este festival em Berlim, e também toquei com eles no emblemático Musikverein de Viena, e agora neste ano, 2025, estive com uma orquestra de jovens que é uma das melhores, e tenho muito orgulho de ter feito parte, que é a Orquestra de Jovens da União Europeia, onde tocámos por diversos países da Europa: Polónia, Áustria, Alemanha, Itália e também Holanda. Portanto, com maestros de grande renome, e portanto, diria que o grande salto foi em 2019 com aquela pequena orquestra, mas desde que vim para Amsterdão, que depois também se tornou mais fácil que a minha carreira saísse um bocado de Portugal.
José Guilherme Neves, a música é uma paixão para si. Bom, mas não se vive com paixão, não se come paixão, não há que pagar a renda de casa, isto, aquilo, aquilo. De maneira que, quer dizer, chegou um ponto onde já está profissionalizado?
É sim, em teoria, depois da licenciatura, diríamos que oficialmente sim, mas diria que quase todos os meus colegas, estudantes de música, queremos ser todos profissionais, e a partir daí criar uma carreira, digamos.
Quem diz carreira, quantas horas de trabalho diárias?
Eu diria que eu nunca vejo muitas horas que estudo, porque eu acho que uma pessoa não deve estudar pelas horas, não deve estudar horas exatas, mas deve estudar sim de acordo com a quantidade de trabalho que temos para fazer, ou então para manter forma, ou então para ou até nos começamos a ser um bocado cansados, temos que saber gerir um bocado as horas, mas eu diria que nós deveremos estudar as horas que necessitamos, mas eu diria que no mínimo dos mínimos 4 horas. É o que eu estudo.
Como eu disse no início, o concerto na próxima terça-feira, dia 28 de outubro, em Paris, e vem acompanhado pela pianista Ana Teresa Pereira. Talvez falamos um pouco dela, porque tenho a impressão que vocês já não é a primeira vez que estão juntos num palco.
Sim, é verdade. Já tocamos juntos algumas vezes em atividades do conservatório. Ela é uma colega de 2003, de 2004, ela é que está um ano à frente. Ela estuda também aqui, ela estuda piano e composição, ela é natural de Póvoa do Lanhoso, estudou em Braga, no conservatório Carlos Gulbenkian, e é uma pessoa que eu me dou bastante bem e que já tinha convidado algumas vezes para fazer algumas audições comigo. E, portanto, surgiu esta oportunidade de tocar neste recital e convidei-a para este desafio e ela aceitou.
Falando do recital, qual vai ser o repertório?
Iremos tocar 4 peças. A primeira obra é de um compositor do século XVII, Henri Eclet, um compositor francês. Escreveu uma sonata para violino, mas depois foi adaptada para bastantes instrumentos e um deles foi a tuba, e portanto essa será a obra que abrirá o concerto. A segunda obra é do compositor português Telmo Marques, uma pequena obra que se chama Allegro Sonata. É uma obra que que foi escrita muito recentemente que de facto é tão boa que já foi várias vezes selecionada para integrar programas das melhores competições de tuba que há a nível mundial, portanto. E é um compositor português, portanto, decidi que era uma boa altura para a tocar. A terceira obra é um clássico do repertório para tuba, uma obra do compositor francês Jacques Castrève, uma obra que se chama Sonatina, é uma obra que foi escrita para um antigo professor de tuba do Conservatório Nacional Superior de Música de Paris. E a última obra é uma obra que não era um compositor nem francês nem português, era um compositor suíço, Étienne Crochaz, e foi escrita para um tubista da região de Leiria também, de Alcobaça, um tubista que é uma referência para nós músicos portugueses, que se chama Sérgio Carolino, e é uma obra que até foi escrita para tuba e acordeão, mas que depois foi adaptada para tuba e piano, que se chama Eastern Folk Dances.
Tem a ver diretamente com danças folclóricas, não é?
Sim, exatamente.
José Guilherme Neves, muito obrigado, seja bem-vindo a Paris.
Muito obrigado eu e espero vê-los todos lá no dia 28 às 8.
Guilherme Neves, que vai estar em concerto, vai ser na próxima terça-feira, dia 28 de novembro, a partir das 20 horas, na Maison de Portugal, André de Gouveia, Cité Internacional Universitaire de Paris. Paris 14e. E, meus amigos, falámos do teatro musical Soldado Ici et Là-bas, le théâtre de Vry-sur-Marne, ça sera le 8 novembre 2025. Eh bien, maintenant, on va où? Digamos, ou é melhor falar em português agora, é mais fácil às vezes. Isto é teatro, não é nenhum teatro. Entre circo, poesia e música ao vivo, quero falar da peça, bom, portanto, é uma peça
Persona né Pessoa, do autor e intérprete de Nico Pires, que está a ser representada até o dia 18 de novembro no Estúdio Eberto, Estúdio Eberto, que aliás o Dan conhece bem igualmente, porque a peça Saudade e Sílaba já lá foi representada. Este estúdio encontra-se número 78, Bis Boulevard de Batignol, em Paris, de 17. Circo, poesia e música ao vivo.
Eu não sou ninguém, eu não quero ser.
O poeta é um fingidor.
Femme é o próprio do poeta.
Alors c'est à cette époque que j'ai commencé à écrire sur mes doutes, mes rêves. Et soit c'est ça. Je suis plusieurs.
J'ai créé en moi diverses personnalités.
Quart d'heure de ma vie ça.
Le créateur du miroir a empoisonné l'âme humaine.
La bande annonce de Personne n'est pessoa de Nico Pires, Nico Pires, que é ator, mas é igualmente artista de circo e por aí fora, a que ver a peça. Este espetáculo está, como eu disse há instantes, pode ser visto até o dia 18 de novembro no estúdio Eberto, 78 Bis, Boulevard de Batignol, Paris, de 17. Bom, e agora vamos até ao cinema. Cinema, o filme Banzo, da realizadora Margarida Cardoso, é o candidato de Portugal aos Oscars para o melhor filme internacional. A 98ª edição dos Oscars realiza-se no dia 15 de março de 2026, e evidentemente terá que ser em Hollywood. Ora, a Cafrica Banzo situa-se no início do século XIX, em São Tomé e Príncipe, e aborda a herança do colonialismo em África e foca sobretudo a escravatura numa roça de cacau em São Tomé.
Estão todas prontas? Trabalhar. A fingir que trabalha.
O mal não se deixa fotografar facilmente. Temos de dar uma ajuda.
Porque choro, porque canto, não posso nem sei dizer. Canto para não chorar, canto para não morrer. Sou triste, todos o dizem, mas ninguém sabe a razão.
Eu gostava de falar com as pessoas. Não.
Mesmo que nós falássemos, o que é mudar?
Se as pessoas não querem comer, se querem morrer, eu preciso de saber porquê.
Mandaram-vos diretamente para o céu, doutor.
Eu posso garantir-lhe que aqui não há nenhum serviçal sem contrato assinado.
Sabe o que mais me surpreende? A facilidade com que começamos a agir segundo as leis deste lugar.
Temos uma nova remessa a chegar brevemente. O meu medo é que isso se transforme numa pandemia. Mas ponho em contacto com os outros.
Nenhum medicamento, nenhum tratamento.
Os que se atiram ao mar nunca mais os vemos. Vão para lado nenhum, dizem.
E não quero ficar com as fotografias.
Nunca vá com aquilo. Vá na veta.
Será que eles sabem que vão para lado nenhum?
Bye.
Banzo de Margarida Cardoso, narra episódios que se passaram, infelizmente, em São Tomé e Príncipe, no início do século XIX, precisamente, e aborda a herança do colonialismo em África e, sobretudo, a escravatura, põe numa roça de cacau. Ora, Banzo de Margarida Cardoso está disponível em várias plataformas internacionais e o filme foi apresentado aqui, na capital francesa, em antestreia no Festival Olá Paris, Festival do Cinema Português. E agora, teatro, mas também há música, a tudo isso. E tem uma ligação, de uma certa forma, com a saudade de si, na medida em que aborda também questões da memória. Quero referir à peça La Fleur au Fusil, do ator e autor Leonel Cecília, que está a ser apresentada igualmente até o dia 18 de novembro, tal como Peça na Pessoa, mas desta feita no Teatro de La Huchette, evidentemente tem que ser na Rue de La Huchette, o número é 23, em Paris 5. É o 25 de abril de 1964, contado pela avó ao seu neto.
Grand-mère allait me raconter la sienne.
Nous avions une mission.
Écoute, ça a démarré dans la nuit, je crois qu'ils sont un petit peu partis la fleur au fusil, mon vieux. Ce Portugal que je n'avais connu qu'à la douce lumière de l'été avait connu des heures bien plus sombres. Ce que j'ai vu ici n'est même pas imaginable.
J'ai été arrêté, Zé.
Si on est au moins deux, on est ensemble.
J'ai vu la mort, Zé.
C'était comme ça. À partir de maintenant, nous sommes le MFA.
Je vous propose un autre destin.
Oh mon coco, j'ai pas d'outils, ça, mais toi t'es bon ici, hein.
Mémé.
C'est mon histoire, c'est moi que je raconte.
En direct nos émissions associées de Lisbonne.
Liberté, fraternité, le peuple commande dorénavant.
Oh, wow.
Je te présente Jojo.
Carpevelian. Et toi, tu ferais bien de pas parler en français.
Qu'est-ce que je vous mets? Un petit jaune, hein?
A quem cante por interesse, a quem cante por cantar, a quem faça profissão de combater a cantar, e a quem cante de pantufas para não...
Je ne mourrai pas sans connaître la couleur de la liberté.
Le pouvoir au peuple.
Uma casa portuguesa, com certeza.
La Fleur au Fusil, do autor e autor Leonel Cecílio, até o 18 de novembro, Teatro de La Huchette, 23 Rue de La Huchette, em Paris 5. A peça é representada da terça ao sábado, isto às 21 horas. Não tome nota. Bom, encontros já tivemos alguns, agora há que ir até lá, nem mais nem menos. E nós vamos voltar uns aninhos atrás com uma canção que tem a sua história igualmente. O autor é António Judião, não é o verdadeiro nome, trata-se de um pseudónimo de um grande poeta português. Pedra, Filho do Sol é o tema, é o texto, é o poema, e foi musicado e cantado por Manuel Freire.
Eles não sabem que o sol é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, este ribeiro manso em sereno sobressalto, como estes pinheiros altos que em verde e ouro se agitam, como estas aves que em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, de focinho pontiagudo, perpétuo movimento. Eles não sabem que o sol e daleko rebin se. Bazo fusto u kapitel, arka jo živa vitral, i na klube katedral, contrapunto sinfonia, máscara grega magia, que retorna l'alquimista, mapa do mundo distante. Rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim. Barco de proa festiva, alto forno geradora, cisão do átomo radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão, na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. La, la, la.
Ferreira, pedra filosofal. Manuel Ferreira, aliás, que esteve na Casa de Portugal, mesmo na casa de André Gouveia, nem mais nem menos, acompanhado por quem? Por Francisco Fanhais. E para falar nisso, a ligação é com a exposição Chanson de l'Exil Português à l'aube de la Revolution des Aïe 1974, que está patente ao público até o dia 31 deste mês. E a emissão está praticamente terminada. Obrigado ao Manuel Alexandre, obrigado igualmente ao Dan de Dan Inger dos Santos de ter vindo até aqui. Eu estou-me a despedir e nada melhor do que podia buscar uma canção de quem? De José Maria Branco, a propósito disso. Despedidos, bom, meus amigos, bye bye. Lixo no jornal.
é o seu braço armado.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.